de tous les animaux du quartier.
Offrez-vous le Salon du bateau en cadeau pour Noël. Jusqu'au 31 décembre, profitez de prix réduits allant de 20 à 25 pour le Salon du bateau de Montréal. Du 20 au 23 février, au Palais des Congrès. Découvrez les nouveautés et préparez votre prochaine aventure nautique. J'embarque. Et vous?
Les Montréalais offrent des cadeaux d'Orange Julep de Gibault. Venez ramasser nos paquets cadeaux incluant une casquette, un sac réutilisable Gibault Orange Julep et une carte cadeau de 25 $. Passez vos commandes de groupe pour vos parties des fêtes. Meilleurs vœux à tous, de vos amis à la Grosse Orange. 7700 Boulevard des Caries.
Cette semaine sur maboutiqueradio.ca.
Obtenez deux chèques cadeaux de 25 $ chacun, valides au restaurant Le Célébrité. Maintenant, une toute nouvelle adresse pour mieux vous servir. 8095 Boulevard Taschereau à Brossard.
Maboutiqueradio.ca.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Budweiser est à 68$, puis la caisse de 24 bouteilles de Corona est à 30$. Avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 25 décembre. Détails au Super.
À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. Toujours bien informé. Bien informé. Au 98.5 Montréal. Vous écoutez L'Agacé le matin. Le matin.
Je peux pas faire de commentaires, j'ai une poursuite en diffamation contre Mme Snyder.
Que justice soit rendue, c'est pour ça qu'on est ici.
Moi, je demeure focusé sur être le ministre des Finances, le ministre des Affaires intergouvernementales. C'est un défi de taille. J'ai commencé la conversation avec le sous-ministre des Finances sur le processus de préparer le prochain budget.
On ne peut plus attendre. On va envoyer la facture, évidemment. On continue de penser que les ressources en itinérance, c'est un enjeu de société. Ça ne peut pas revenir une responsabilité des payeurs de taxes de Montréal ou juste de Québec ou juste de Gatineau.
Voici Patrick Lagacé.
6h01, merci d'être là. On vous accompagne jusqu'à 10h. Vous pouvez nous rejoindre au 98-985 pour réagir en direct. On va se faire une météo avant d'aborder l'actualité. D'abord, aujourd'hui, 40% de probabilité d'averse de neige, des nuages, maximum moins 8, refroidissement éolien de moins 19 degrés. La nuit prochaine, faible neige intermittente, minimum de moins 10, refroidissement éolien moins 18. Là, vous le voyez, le mot-clé ces jours-ci, c'est le mot froid et même très, très froid. Demain samedi, des nuages, 60% de probabilité d'averse de neige, température stable moins 9, refroidissement éolien moins 20 degrés demain samedi. Dimanche, du soleil maximum de moins 11 actuellement à Montréal, moins 10 degrés avec le facteur vent, c'est moins 17 degrés. Je commence par une nouvelle qui est dans les quotidiens aujourd'hui. Peterson dans Le Devoir aussi, dans la presse. Là, on fait écho aux conclusions là d'une chaire de l'Université de Sherbrooke, la chaire sur la fiscalité. Ce qu'on dit, puis écoutez, faites pas le saut. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Écrivez-moi au 98985, mais selon la chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke, le pouvoir d'achat des Québécois, depuis 5 ans, n'a pas reculé. Et dans la prochaine année, il va augmenter. Je sais que c'est difficile à croire. Je sais que quand on va magasiner, quand on va faire l'épicerie notamment, c'est pas le constat auquel on en vient. Semble-t-il, toujours selon cette chaire-là, qui est très sérieuse, qui est très crédible, il y a un décalage entre la perception de ce qu'on paye et de ce qu'on reçoit en aide publique, en aide fiscale. C'est-à-dire que quand vous achetez du bœuf haché, ça a augmenté. Quand vous achetez du steak, ça a augmenté. Vous le savez. Vous vous souvenez qu'il y a 6 mois, c'était moins cher. Ce qu'on voit pas immédiatement, c'est comment les aides fiscales, les déductions fiscales, les allocations familiales, par exemple, ont augmenté. Et les experts de l'Université de Sherbrooke ont divisé la population en 8 cas types, des célibataires, des familles avec enfants, sans enfants, etc. Et il semble que pour la majorité des 8 cas types de citoyens, ben le pouvoir d'achat a pas reculé depuis 5 ans. J'avais parlé avec Luc Godbout il y a un an, là. On avait publié le même type d'étude du côté de l'Université de Sherbrooke. Et j'étais sceptique. Lui, il regarde les chiffres. Il est sûr de son affaire. Mais je vous le dis, c'est contre-intuitif. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Vous pouvez m'écrire au 98-985, mais vous pouvez lire ça aujourd'hui dans Le Devoir et aussi dans la presse. Parlons de cette controverse là qui plombe le Canadien de Montréal. Vous le savez, la Russie mène une guerre d'annexion. On veut annexer l'Ukraine depuis 2022. Ça a mis la Russie, disons, au banc des punitions de la société internationale. Il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus faire affaire avec la Russie. Il y a des sanctions économiques, des sanctions bancaires, qui, semble-t-il, commencent aussi à avoir beaucoup d'effets dans la société russe, mais ça, c'est un autre débat. Le Canadien de Montréal a envoyé certains de ses dirigeants en Russie pour s'intéresser à un espoir qui s'appelle Demidov, qui est un excellent joueur, et Ivan Demidov, qui a été repêché par le Canadien. Donc, Jeff Gorton, qui défend, lui, il n'est pas allé là-bas, M. Gorton, qui défend le fait que le dépisteur Bobrov, Kent Hughes, directeur général du Canadien, Vincent Lecavalier, qui travaille aussi pour le Canadien, sont allés voir le club SKA Saint-Pétersbourg. C'est là qu'évolue Demidov. Il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires canadiens, de gens d'affaires canadiens qui peuvent aller en Russie parce que les sanctions sont vraiment très, très larges. Le Canadien a envoyé des hommes de hockey là-bas. Est-ce que c'est interdit? Ça n'a pas l'air d'être interdit. Et là, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main et qui disent « Est-ce que le Canadien de Montréal devrait envoyer une délégation en Russie présentement? » Quand un allié du Canada, l'Ukraine, fait face à une agression du géant russe. Beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas une bonne idée. Et on peut avoir l'opinion qu'on veut là-dessus. Moi, je vous le dis, ma tête n'est pas complètement faite. Est-ce que on envoie un mauvais signal? Peut-être. Là où, je vous le dis, j'ai comme un léger problème avec un certain discours, le coach du SKA Saint-Pétersbourg s'appelle Roman Rotenberg. C'est un citoyen russe. Il est né en Russie. Il semble qu'il y a aussi du finlandais dans son arbre généalogique. Lui a profité du passage des gens du Canadien pour publier une photo. Et sur ses réseaux sociaux, il a dit que lui et ses visiteurs étaient tombés d'accord sur l'importance du retour de la Russie sur la scène internationale parce que le hockey est impensable dans des duels entre le Canada et la Russie. Plus tôt cet été, nous avons eu par vidéo une conversation productive. Il est vital de maintenir les liens internationaux, de suivre les tendances et d'échanger sur nos expériences, car c'est seulement de cette façon que nous progresserons. Moi, je vous le dis, tout le discours du sport qui peut changer les relations internationales, les attitudes des nations, j'ai toujours trouvé que c'était de la bullshit. Le comité international olympique nous sert cette poutine-là quand il s'agit de donner les Jeux à des dictatures comme la Chine, comme la Russie. Ah, les peuples qui vont pouvoir mieux se comprendre, le pouvoir unificateur du sport, c'est de la bullshit. C'est de la business et c'est uniquement de la business. Quand la FIFA donne le mondial au Qatar, quand la FIFA donne le mondial à l'Arabie Saoudite, à des dictatures sanguinaires, c'est pas pour que les gens de tous les peuples s'assoient, boivent le thé et se comprennent et le message va se rendre aux dirigeants et tout va bien aller dans le meilleur des mondes. C'est de la business. Point final. Et c'est exactement ce que le Canadien de Montréal fait. Je suis pas prêt à lancer des rondelles aux Canadiens. Le Canadien avait le choix d'aller là ou pas, de se faire prendre en photo là-bas ou pas. Je trouve que le timing pour parler en termes de hockey est pas très, très bon. Parlons maintenant de paralysie. Il y a trois pays occidentaux qui présentement font face à des paralysies de divers types. On va commencer avec le Canada. On le sait, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. M. Trudeau qui est affaibli. D'abord, ses sondages sont épouvantables. S'il y avait une élection aujourd'hui, le Parti libéral ne serait pas rayé de la carte, mais il serait, disons, en très mauvaise posture. Et M. Trudeau a fait face cette semaine là à la démission d'une de ses ministres. La semaine passée, il y a une semaine exactement, Chrystia Freeland. Et ça a ébranlé son leadership. Il y a des gens dans son parti qui souhaitent le voir partir. Là, M. Trudeau va faire un remaniement, ça va être annoncé à 10 heures aujourd'hui. Et il regarde ses options. Dans le Globe and Mail ce matin, là, on peut lire qu'il y a des ministres qui lui disent « Vous devriez rester. » Il y a des gens du Parti libéral, des ministres qui lui disent « Vous devriez vous en aller ». Que va-t-il faire? C'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que il y a une paralysie du gouvernement. Jonathan nous en parlait hier, là, des fonctionnaires qui témoignent et qui disent que cette distraction-là se répand dans la fonction publique, dans l'appareil d'État. On sait aussi qu'il y a des négociations qui vont avoir lieu avec les Américains. Au pire moment, M. Trump veut nous imposer des tarifs douaniers de 25 %. Le gouvernement est paralysé. M. Trudeau a la tête ailleurs. Est-ce que c'est le meilleur contexte pour faire face à ce défi qui est absolument colossal? Pas sûr. Donc, vous avez ce type de paralysie qu'on a au Canada. Et là, quand on se retourne et qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, vous avez un autre type de paralysie, la paralysie budgétaire. C'est ponctuel aux États-Unis. Là, il y a une loi, là, c'est un peu obscur, là, qui fait en sorte que le Congrès doit adopter... certaines mesures. Il y a des mesures sur le déficit qui doivent être approuvées. Et c'est toujours l'objet d'un jeu de cordes à la souque entre le Parti démocrate, le Parti républicain. Et là, ce qui est particulier, c'est que M. Trump est même pas encore assermenté comme président. Son cabinet est pas assermenté. Ça va avoir lieu le 20 janvier. Mais lui et les gens autour de lui, comme Elon Musk, qui est pas un élu, qui va pas être dans le cabinet formellement, là, il va avoir des responsabilités extra-gouvernementales. Ils sont déjà en train d'influencer sur l'adoption du budget américain, et ça donne lieu à une paralysie. À minuit ce soir, ça se peut que le gouvernement américain soit mis sur la glace, que les fonctionnaires soient pas payés, qu'il y ait des programmes qui soient pas financés. Bref, c'est le bordel. Ça arrive ponctuellement aux États-Unis. Le contexte est plus particulier maintenant parce que le groupe de M. Trump s'en vient. Et le groupe de M. Trump croit pas tant que ça à l'État. Je sais pas comment le dire autrement. Trouve que l'État est trop gros. Trouve que l'État est trop puissant. A trop d'impact dans la vie des Américains. Mais les milliardaires qui sont autour de M. Trump aussi, faut le dire, ce qu'ils trouvent, c'est que la réglementation, tout type de réglementation, ça fait suer. Et l'occasion est belle de déconstruire un peu, beaucoup, le gouvernement américain. Mais toujours est-il que c'est une certaine forme de paralysie. En France, vous n'avez pas de gouvernement depuis des semaines. Le premier ministre, M. Barnier, a été évincé, a été l'objet d'une motion de censure. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'Emmanuel Macron puisse trouver un candidat qui fasse consensus dans une Assemblée nationale qui est divisée, qui est fictionnée, entre des groupes de gauche, de droite, de centre, d'extrême gauche, d'extrême centre, d'extrême droite, pardon. On a opté pour François Bayrou, qui arrive. C'est un vieux routier de la politique qui a été candidat à la présidentielle. Il y a de la misère à former un gouvernement parce qu'encore une fois, il est menacé de censure. Donc, vous avez cette puissance mondiale qu'est la France, cette puissance mondiale que sont les États-Unis, qui sont à leur façon paralysés dans les deux cas. Il y a peut-être là-dedans quelque chose comme un symbole, je veux pas dire de l'effritement de la démocratie, mais c'est comme si plusieurs démocraties commençaient à, disons, tanguer sous leur propre poids. Il y a, on le voit, une inefficacité des fonctions publiques. Ça, c'est avéré. On voit les politiciens qui arrivent avec des demi-mesures, des déficits un peu partout. Beaucoup, beaucoup de manque de souplesse un peu partout, notamment en France. Et ça arrive tout en même temps. Le Canada n'est pas une puissance mondiale, mais c'est quand même un pays du G7 qui est paralysé. Vous avez trois pays du G7 présentement qui sont plus ou moins paralysé. On va aller voir Marc pour la circulation. Il est 6h13.
Oui, ça va très bien sur le réseau. Il n'y a pas de problème majeur. Tunnel à Fontaine vers le sud, c'est dans le secteur Hochelaga. Là, c'était à partir de Souligny. Il y a peut-être quelques minutes de plus d'attente. Mais dans l'ensemble, c'est nettement mieux qu'à l'habitude. Les vacances sont arrivées pour plusieurs, ça paraît. Très faible volume de circulation. Tout de même, la prudence est de mise. Les traversées de la Rive-Sud, il n'y a pas d'attente. Le pont de l'île Autourte non plus. Si vous êtes témoin d'incidents ou de retard, je vous invite à communiquer avec moi. Abonnez TELUS étoile 985 ou le 514-768-2625. Et en prime, il n'y a pas de communiqué pour la fin de semaine pour les travaux parce que les chantiers sont en pause hivernale. Donc, pour le temps des fêtes, il n'y a pas de fermeture importante prévue, sauf s'il y a urgence, sauf s'il y a un problème majeur. Profitons-en, c'est pas toujours le cas, mais ce matin, c'est facile.
Merci Marc, il est 6h14. Je vous parlais de paralysie des fonctions publiques. On le voit en France, on le voit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada aussi. Et au Canada...